7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, les écrans et les enfants. Les écrans, je veux parler de la télévision, des smartphones, des ordinateurs, des tablettes. Si on fait l'addition, combien d'heures les enfants passent-ils devant un écran? Et quelles conséquences sur le développement et l'apprentissage des tout jeunes enfants? Les heures passées devant les écrans modifient-elles le comportement de l'enfant? En France, près d'un enfant sur deux de moins de 3 ans utilise un écran interactif. C'est un sujet qui devient polémique car sous la pression des entreprises du numérique, eh bien, les écrans sont aussi perçus comme émancipateurs pour les enfants qui peuvent, c'est vrai, jouer, apprendre et faire des découvertes par eux-mêmes grâce à l'écran. À l'heure où les économies manquent presque partout de codeurs informatiques, de développeurs, où les programmes scolaires introduisent l'apprentissage du code informatique, faut-il empêcher les enfants de passer trop de temps devant les écrans? On ne sait plus vraiment quoi répondre. Alors appelez-nous, bien sûr, les voisins et les voisines, si vous êtes parents, grands frères, enseignants, si vous vous interrogez sur les écrans dans la vie des enfants, quelle est leur place? Et puis bien sûr, vous nous appelez pour nous poser des questions au 33 1 84 22 71 71. En studio, Elsa Job-Pijard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes orthophoniste, cofondatrice de l'association Joue, Pense, Parle. Et c'est vrai que jouer, penser, parler, vous nous direz précisément si ces fonctions sont affectées par les temps passés devant des écrans. C'est la base du développement de l'enfant, en tout cas. On sera également en ligne avec Sabine Duflo, qui est déjà en ligne avec nous. Bonjour Sabine Duflo.
Bonjour Emmanuel Bastide.
Vous êtes psychologue au centre médico-psychologique de Noisy-le-Grand, dans la banlieue parisienne, et vous travaillez précisément sur la place des écrans dans des familles qui sont souvent démunies. Je vous redonne notre numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71. Deux messages à vous lire parmi pas mal de messages postés sur notre page Facebook. Papy Sketa Dakar nous dit « Les enfants sont accros à leurs écrans, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. » La plupart des enfants ont d'ailleurs au moins un écran dans leur chambre. Anour, Anjamena, au Tchad, la majorité des enfants aujourd'hui regardent tout le temps la télé, leurs films, leurs séries préférées. On remarque que lorsqu'ils chantent et parlent, ils connaissent les langues dans lesquelles ils regardent les films. Donc oui, il y a des conséquences d'utilisation des écrans sur les enfants, mais elles ne sont pas que négatives. Bien sûr, on va en parler. 33 1 84 22 71 71, appelez-nous dès maintenant, n'attendez pas la fin de l'émission pour dialoguer avec nos invités spécialistes de ces questions.
Sept milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Nous accueillons une voisine, Angélique, qui est à Oslo, en Norvège. Bonjour Angélique.
Bonjour.
Angélique, bonjour, vous êtes maman de deux enfants, 1 an, 2 ans et demi, et vous vous inquiétez de certaines pratiques à l'école. Dans votre entourage, vos enfants ne vont pas à l'école, on est bien d'accord?
Non, ils vont à la crèche pour l'instant.
Oui.
Non, en fait, c'est par rapport à ce que je commence à apprendre sur le système ici.
En Norvège?
En fait, en Norvège, voilà. En Norvège, déjà, d'une chose, les enfants, en fait, ils mangent en classe pour le déjeuner. Et donc, ils n'ont pas de cantine ou de pièce réservée au déjeuner. Et culturellement, il faut manger au calme. Et il y a une pratique qui est courante, d'après plusieurs de mes voisins, c'est de mettre la télé. Donc, en fait, il y a un écran dans la classe. Ce n'est pas une télé, c'est un écran. L'enseignant choisit un programme, certes, adapté. Mais en fait, c'est la manière de canaliser leur énergie, en gros, et de faire en sorte qu'ils mangent en calme.
Donc, plus besoin de surveillants. Chaque enfant a sa petite lunchbox,
son
déjeuner, et ils sont assis. Et donc, ils ne se parlent pas, les enfants, entre eux, alors.
En fait, c'est ça. Alors, moi, c'est ça. J'étais déjà choquée par ça. Alors, je me disais, mais j'ai une maman qui est enseignante, qui a eu un enfant en même temps que moi, et qu'elle me disait qu'elle faisait ça aussi. Alors, je lui disais, mais c'est pas pendant le déjeuner qu'il faut qu'il soit au calme, c'est le moment d'être social.
Des copains et des copines, en effet, à l'école, oui.
Voilà, mais elle me dit, ben non, la tradition norvégienne, c'est de manger au calme. Et je lui dis, ben oui, mais ils sont déjà au calme pendant les heures de cours, alors il ne faut pas en plus leur imposer le calme pendant le déjeuner. Et là, elle rigole un peu, elle me dit, ah, parce que tu crois que les heures de cours, elles sont au calme? Alors moi, j'ai pas voulu être impolie, mais je me suis dit, c'est le monde à l'envers.
Oui, vous vous dites, est-ce, donc vous posez la question, est-ce normal de prendre un repas en regardant la télévision ou un film? Vous posez une bonne question, Angélique. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Je ne connaissais pas ces pratiques scolaires, en effet, à l'école maternelle en Norvège et même primaire. Alors, Sabine Duflo, vous êtes psychologue au centre médico-psychologique. Déjà, qu'est-ce que vous répondez à Angélique ?
Je réponds qu'effectivement, c'est une bonne façon pour les enseignants d'être au calme, de mettre un enfant devant la télé, pour les parents aussi. Voilà, ça c'est sûr. Maintenant, c'est évidemment la pire façon de faire avec un enfant, qu'on soit enseignant ou parent, parce que aujourd'hui, le temps d'échange parent-enfant ou adulte-enfant s'est énormément rétréci. Hein, et le repas, qu'il soit pris à l'école ou bien en famille, est souvent le seul moment où les adultes et les enfants peuvent échanger ensemble. Or, échanger ensemble permet à l'enfant d'acquérir un langage humain, un langage de communication de bonne qualité.
Aujourd'hui, combien d'heures passées devant les écrans pour les enfants en fonction des âges? Qu'est-ce qu'on a comme chiffre à l'heure actuelle, aussi en fonction des pays peut-être?
Alors les chiffres les plus sûrs, c'est les chiffres américains ou canadiens, parce qu'en France, on n'a pas de grande campagne et puis les moins de 4 ans ne sont pas pris en compte. Je vous donne des chiffres 2015 de Common Sense Media, un chiffre américain, c'est 4h36 pour les 8-12 ans, avec 6% des enfants des 8-12 ans qui passent plus de 10 heures par jour. Par jour, hein. Et 6h40 pour les ados de 13-18 ans, ce qui rejoint le chiffre paru dernièrement dans Le Monde, qui était de 6h48. Les collégiens déclaraient passer 6h48 face à un écran par jour.
Donc presque 7 heures par jour devant un écran, ça c'est quand on additionne quoi donc ?
Tout écran confondu, sachant qu'aujourd'hui, les enfants, comme les ados, peuvent consulter plusieurs écrans à la fois, être devant la télé tout en regardant leur portable, etc.
Y compris, donc, alors là, vous avez cité des chiffres pour des enfants à partir de 4 ans.
Oui, alors là, je ai sorti ce matin la Société canadienne de pédiatrie a sorti un rapport intéressant où elle note que, ça c'est des chiffres 2014, les enfants de 3 à 5 ans passent en moyenne 2 heures par jour devant un écran. Voilà. Ce qui est déjà au-dessus des recommandations qui sont pour cet âge-là, pas plus d'une heure.
Elsa Job-Pijard.
Moi, ce que ça m'évoquait, le témoignage de cette auditrice, hein, je ne connais pas la Norvège, mais c'est que ça soulève la question de pour qui est cet écran? Quel est le vrai besoin de cet écran? Est-ce que, comme le disait Sabine, c'est plutôt pour avoir un moment de calme ou est-ce que ça correspond aux besoins de l'enfant qui se construit? Or, comme le rappelait Sabine, l'enfant a besoin qu'on lui parle, qu'on le regarde et a besoin de moments d'échange. Et d'ailleurs, Sabine, qui a beaucoup travaillé sur des recommandations à donner aux parents et aux familles, a écrit le livret 4 pas. Et donc, un des 4 pas, c'est pas de télévision, pas d'écran pendant les repas. Or, je peux témoigner en tant qu'orthophoniste que nous voyons de plus en plus d'enfants qui ont des troubles alimentaires, des troubles qui sont extrêmement difficiles pour se nourrir, des enfants qui refusent, des enfants tout petits qui bavent, etc. Or, quand nous interrogeons les parents, souvent, nous nous rendons compte que ces enfants mangent souvent devant l'écran et donc peut-être ne sont pas tout à fait à ce qu'ils font.
Qu'est-ce que vous observez toutes les deux, Elsa, vous êtes orthophoniste, Sabine, vous êtes psychologue. Que vous racontent les enseignants, puisque ce sont eux qui ont bien les enfants toute la journée sous les yeux en classe, concernant les problèmes que peuvent poser les écrans? Sabine Duflo.
Juste, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est l'école, que ce soit maternelle ou primaire ou collège, qui prioritairement nous envoie les enfants en consultation psychologique ou orthophoniste. Donc c'est finalement au sein de l'école que les problèmes sont les plus criants.
Et c'est là qu'ils sont repérés par définition au départ. Hein. C'est
oui,
le début
parce
de la
que finalement, la famille les tolère mieux au sein de la famille, quoi, tandis que l'enseignant a besoin de l'attention de l'enfant.
Alors les enseignants, ils vous disent quoi globalement?
Alors ils nous décrivent des enfants agités. très agité, ne pouvant pas tenir en place pendant le temps de la classe. Ça, c'est quand même ce qui est majoritairement décrit pour des enfants qui inquiètent, hein, je veux dire. Des enfants qui entrent tardivement dans le langage ou qui parlent très mal ou qui ont très peu de vocabulaire. Et puis, à partir du CP, ça va être des enfants qui ont beaucoup de mal à entrer dans les apprentissages, beaucoup de mal à apprendre à lire et à écrire, puis plus tard à comprendre.
Ça peut être aussi tout simplement à tenir un crayon.
Absolument, ça peut être des problèmes de motricité. On nous décrit des enfants qui sont tellement habitués à tenir un smartphone dans leurs mains ou à juste effleurer l'écran que finalement ils n'ont plus de force.
Le fameux test du bonhomme qu'on fait à des enfants,
oui,
où on voit bien comment un enfant dessine un bonhomme, dessine-moi un bonhomme, c'est quand même c'est ce qu'il y a de plus basique. Hein. Qu'est-ce que ça donne avec des enfants qui sont beaucoup trop exposés à des écrans ?
Eh bien, vous pouvez voir d'ailleurs cette représentation dans le livre TV Lobotomie de Michel Desmurgés. La production de l'enfant, plus l'enfant est exposé à la télévision, plus son dessin est pauvre et imprécis.
Sabine Duflo, pourquoi des programmes, des applications pour smartphones qui sont pensées, qui sont conçues pour les enfants, poseraient un problème dans le fond, dans le développement des apprentissages ?
Parce que l'écran, quel que soit son contenu, quel que soit le type d'écran, dérégule le système de l'attention, le système attentionnel. Or, l'attention, ce qui est à la base de tous les apprentissages. Pour vous expliquer les choses le plus simplement possible, vous avez deux types d'attention. Une attention non volontaire, exogène, qui est le fait que dès qu'il y a un stimuli auditif ou visuel, je ne peux pas faire autrement que de tourner mon regard vers ça. Or, l'écran surstimule cette attention-là en permanence par des images qui vont très vite, une bande-son aussi très captivante. Et du coup, si vous voulez, l'attention de l'enfant est sans arrêt relancée par ces écrans. Et vous avez à l'opposé
Ça peut être le cas aussi, par exemple, la télévision allumée en permanence dans le salon. Un enfant qui joue avec ses jouets, la maman se dit bah non, il joue bien avec ses jouets, il ne regarde pas la télévision.
Il faut beaucoup insister sur cette notion.
En fait, il tourne la tête en permanence dès qu'il y a un bruit.
Voilà, et quand il revient à son jeu, il ne sait pas où il en est. Hein. Et à l'opposé, vous avez un autre type d'attention qui, elle, est acquise, n'est pas innée, et qui est le fait que l'enfant ou le sujet se concentre volontairement sur quelque chose qui ne bouge pas ou très peu, comme le livre d'images, comme l'adulte qui lui parle. Et où nous voyons aujourd'hui arriver en consultation des enfants qui n'ont pas ce type-là d'attention, qu'on appelle concentration, et qui ont uniquement une attention exogène, surstimulée, du type, si vous voulez, action-réaction. Et ça implique, ça induit des troubles, mais plus que graves. C'est pas simplement des retards. Nous avons aujourd'hui des enfants qui arrivent en consultation qui ont 4 ans et qui présentent tous les traits de l'autisme, c'est-à-dire des enfants qui n'ont pas de langage, qui ne vous regardent pas, ça c'est le signe essentiel, qui ne regardent pas l'adulte, ni son parent, ni son père, ni l'adulte qui lui parle, qui ont une utilisation extrêmement primaire de l'objet, c'est-à-dire qu'ils le portent à la bouche et puis ils le font tomber. Ces enfants-là ont un système attentionnel totalement dérégulé et un système relationnel qui ne s'est pas mis en place.
Là, on est clairement dans la pathologie, et d'ailleurs, ce sont des pathologies qui sont évoquées dans l'émission Priorité Santé avec ma collègue Claire Hédon. Mais il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, qui disent « Mais moi, mes enfants n'ont pas du tout ces troubles-là. » Oui, de temps en temps, ils n'écoutent pas très bien quand j'explique quelque chose, mais sans plus.
C'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, plus l'enfant est mis tôt et de manière intense devant les écrans, enfin prolongés, plus les troubles qu'il risque de développer sont des troubles graves. Effectivement, les enfants qui ont juste des petits troubles d'attention, c'est les enfants auxquels, heureusement, les parents continuent de parler, d'interagir.
Néanmoins, on dit beaucoup que dans l'acte d'apprendre, pour les petits-enfants, le toucher est quelque chose d'essentiel. Avec les tablettes interactives, d'ailleurs, on bouge bien ses doigts et ses mains, mais pas de la même façon. Pourquoi vous dites que les jouets traditionnels, finalement, sont très importants dans la petite enfance pour structurer son cerveau, Sabine Duflo ?
Parce qu'un enfant ne peut comprendre le monde qui l'entoure et utiliser de manière adaptée les objets qui l'entourent que s'il s'engage physiquement dans le monde avec ses 5 sens. Par exemple, comprendre ce que c'est, je ne sais pas, le petit cube qui veut emboîter sur le premier, il va devoir recommencer plusieurs fois, le toucher avec ses mains, évaluer l'équilibre, voir que quand ça tombe, ça ne rebondit pas, etc.
C'est ça, il ne l'aura pas sur un écran. Il y aura bien un jeu avec des cubes, mais
il y a uniquement deux simulations qui c'est la simulation auditive et visuelle, et c'est trop peu.
Et puis le jeu sur la tablette aura toujours été pensé et défini par quelqu'un d'autre. L'enfant ne peut pas faire ses propres expériences. Et en plus, quand on regarde un petit peu plus près les jeux dits éducatifs, souvent il n'y a pas moyen de se tromper. On ne peut pas se tromper, on ne peut pas essayer, on ne peut pas faire quelque chose qui n'a pas été défini par le programme. Or, l'enfant, il a vraiment besoin d'expérimenter le monde pour le comprendre pour lui-même.
Aujourd'hui, c'est tout de même un sujet qui devient très polémique, Sabine Duflo. On vous reproche d'être technophobe parce que il ne faut pas le nier, les écrans sont aussi formidables pour faire des découvertes pour des enfants, pour apprendre aussi par eux-mêmes, et ça on ne peut pas le nier. Alors, quelle est la limite et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent d'être technophobe, Sabine Duflo?
Alors, heureusement, le discours d'abord est en train de changer. On n'a pas encore de recul suffisant sur les effets réellement positifs, surtout chez les jeunes enfants. Qu'on observe juste, nous sommes des gens du terrain qui travaillons au quotidien avec des enfants et leurs familles, et nous posons la question, combien de temps votre enfant est exposé, regarde un écran? Et ce que nous voyons, c'est que les enfants les plus exposés sont les enfants qui présentent les troubles les plus graves. À partir de ce moment-là, si on est suffisamment nombreux à avoir cette observation-là, le minimum, c'est qu'il devrait exister un moratoire, c'est-à-dire une suspension, jusqu'à preuve du contraire, de tout ce qui est publicité envers les écrans et les enfants, quoi. Qu'on s'arrête à un moment donné et qu'on regarde ce qui...
Voilà. Le jouet le plus vendu aujourd'hui pour les enfants, y compris dans une petite tranche d'âge, 4-8 ans, qu'est-ce que c'est?
Ah bah c'est certainement les tablettes, hein, j'imagine, ou des jouets...
Les tablettes premier âge.
Oui, la tablette premier âge.
Mais...
Oui, Sabine Duflo.
Un des mots, je me souviens, là, en début d'émission d'une de vos auditrices, c'était « les enfants sont accros aux écrans ». C'est le mot qui revient le plus dans la bouche des parents et des enfants eux-mêmes. C'est-à-dire qu'encore une fois, cet objet-là leur fait quelque chose que ne fait pas le livre, que ne fait pas... Il n'y a que cet objet-là pour les rendre, les sédater autant. Donc c'est effectivement merveilleux pour les parents, parce qu'un enfant, ça prend du temps, on le met devant, on est tranquille. C'est merveilleux pour un enseignant, on le met devant et on n'a plus à faire la discipline dans l'école. Mais interrogeons-nous.
Et en plus, il peut recevoir un programme éducatif qui a été conçu pour éduquer.
D'accord.
Hein.
Mais là, le programme éducatif, c'est forcément un programme beaucoup plus pauvre au niveau de ce que ça fait pour le cerveau qu'un enseignant qui explique à l'enfant ou un livre. Alors, je vais essayer de vous expliquer de manière extrême, la plus simple que je pourrais, mais si vous voulez, les programmes éducatifs, on est toujours dans le domaine de action-réaction. Voyez, c'est-à-dire que ce que ça apprend, c'est un apprentissage de type comportementaliste, behaviorisme. Voyez, l'enfant apprend qu'il appuie là-dessus et ça provoque telle chose. Or, c'est un type d'apprentissage, mais ce qui fait le propre d'un être humain, c'est qu'il peut penser, c'est-à-dire qu'il peut faire retour sur ce qu'il a perçu. Vous comprenez? Et on ne peut faire retour sur ce qu'on a perçu que si justement au niveau de l'attention, il y a des pauses, des relâchements. Or, l'écran capte tellement fortement l'attention de l'enfant qu'il ne peut plus faire ses pauses. Donc il est juste dans un système action-réaction ou fasciné par le stimuli visuel auditif, mais cette pause et ce retour qui lui permet de faire retour sur l'objet qu'il a perçu et d'essayer de le comprendre, il n'en a pas la possibilité. Donc on a effectivement aujourd'hui parfois des enfants qui sont, alors ils ont le langage, mais comme des petits singes savants, Elsa vous en parlera très bien, ils ont 4 ans, ils sont incapables de dire je, incapables de faire une phrase, mais ils peuvent tout à fait vous nommer tous les éléments de la dinette en français, en anglais, en espagnol. C'est des enfants Dora.
Les enfants, comment vous dites?
Dora. Ils ont appris avec le programme Dora à parler.
D'accord,
Dora,
je ne connaissais pas le nom de ce programme. D'accord.
Voilà. C'est elle un va dessin vous expliquer, animé. Elsa, très très bien.
Sabine Duflo, on doit vous libérer parce que je sais que vous avez des consultations qui vous attendent, probablement d'enfants qui présentent ce genre de problème. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Nous allons poursuivre, bien sûr, l'émission avec des recommandations avec vous, Elsa Job-Pijard. Bien sûr, il ne s'agit pas de supprimer totalement les écrans parce qu'ils ont... ils apportent aussi des choses intéressantes dans la vie de l'enfant, mais il s'agit de proposer une variété d'activités aux enfants. Alors voilà, à partir de combien d'heures il faut s'inquiéter, on en reparle juste après le flash. Vous restez avec nous. Merci encore à vous, Sabine Duflo, psychologue au centre médico-psychologique de Noisy-le-Grand. On se retrouve dans 3 minutes.
Hey, 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Quelle place pour les écrans dans la vie des enfants? Quelles conséquences surtout sur les apprentissages et le développement du petit enfant? Faut-il limiter le nombre d'heures passées devant la télévision, les tablettes, les smartphones qui s'additionnent? On a entendu les chiffres donnés par notre invitée Sabine Duflo, psychologue en première partie d'émission. Des enfants qui sont parfois jusqu'à 6 heures par jour devant des écrans, tout écran confondu. Ces écrans qui sont aussi les nouvelles nounous des temps modernes, mais beaucoup de parents pensent bien faire avec de bonnes intentions en proposant des programmes ludo-éducatifs à leurs enfants qui ont été d'ailleurs bien conçus, c'est pas la question, c'est l'addition du nombre d'heures à un très jeune âge qui pose un réel problème et fait débat aujourd'hui. Nous avons donc invité non pas des technophobes, mais des expertes qui s'interrogent et qui voient défiler des enfants toute la journée dans leur cabinet. Sabine Duflo nous a quittés, elle était en première partie d'émission. Vous êtes toujours avec nous, Elsa Jopijar, vous êtes orthophoniste et on vous envoie des élèves qui sont repérés par les enseignants, car les premiers détecteurs de problèmes dans l'apprentissage, ce sont bien sûr les enseignants qui voient des enfants qui n'arrivent pas à se concentrer, qui sont vite énervés et surtout qui ont des retards de langage, d'apprentissage dans la lecture et dans l'écriture, même tenir un crayon, la finesse du geste est en train de poser problème à des enfants qui passent trop de temps devant les écrans. J'ai discuté hier avec un fonctionnaire ivoirien qui était de passage à RFI. Il est père de 6 enfants, de 4 à 18 ans. Il est bien conscient des problèmes que posent les écrans. J'en ai discuté avec lui, mais il me dit le problème, c'est que nous, on n'est pas à la maison, ma femme et moi. Alors quand on rentre, on va bien les chicoter s'ils ont trop regardé la télévision. Bon, il y a peut-être d'autres moyens que de chicoter son enfant. Nous accueillons Christophe qui nous appelle des Hautes-Alpes en France. Bonjour Christophe.
C'est ça, bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux voisins.
Vous êtes en direct chez les voisins et les voisines.
Les voisines. Bien, je voulais témoigner de mon cas personnel du coup. J'ai une petite fille aujourd'hui qui a 5 ans et moi je suis d'une génération qu'on appelle parfois Club Dorothée, génération télé.
Ouais.
Et j'ai regardé énormément la télé quand j'étais enfant, après l'école, le mercredi, le samedi.
Oui.
Et aujourd'hui j'essaye de ne pas reproduire ça à la maison. Quoi.
Et d'autant plus qu'il y a...
Pourquoi vous dites « j'essaye de ne pas reproduire », vous avez l'air tout à fait bien au téléphone.
Oui, je me suis rattrapé. J'ai l'impression que j'ai eu besoin de me rattraper à un certain âge. Mais c'est vrai que j'ai eu l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps. Et aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup de gens que je côtoie dans le milieu, notamment culturel, musical, ont appris la musique pendant que moi, je regardais la télé. Quoi. En gros, ça peut...
On peut
faire un comparatif dans ce sens-là. Et puis quand on parlait du dessin tout à l'heure, donc de ce livre-là, ces dessins que j'avais déjà vus, TV Lobotomie, c'est tout à fait ça. Moi, j'ai jamais su tenir, jamais su faire un dessin. Et j'ai l'impression que ma génération, enfin que la télévision a été pour beaucoup.
Et encore, vous ne l'avez pas regardé beaucoup, parce que je ne sais pas quel âge vous avez, mais
aujourd'hui, les écrans se surajoutent, parce qu'il y a énormément de propositions avec les smartphones et les tablettes qui nous suivent partout. Le Club Dorothée et les émissions jeunesse, ça avait encore un horaire précis. Maintenant, il y a des chaînes jeunesse que vous allumez jour et nuit, et il y a toujours un programme à
Alors,
voir.
Alors concrètement, comment vous y prenez avec votre petite fille de 5 ans, Christophe?
Alors, nous, on a quand même une télé à la maison qu'on allume vraiment très rarement. Et il n'y a pas besoin parce que du coup, on fait plein d'autres choses dehors avec les amis et tout ça. Et puis il n'y a pas d'écran dans la chambre, il n'y a pas d'écran pour les enfants. Et on essaie d'encadrer tout ça, mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'écran à allumer en permanence.
Enfin bon, vous avez Internet, comme tout le monde, vous vous informez via Internet.
Malgré les difficultés, parce qu'on est dans les montagnes. Mais...
Ouais. Merci beaucoup de nous avoir appelés. On est en ligne avec Willy qui nous appelle de Libreville au Gabon. Bonjour Willy.
Bonjour Emmanuel.
Nous
bonjour
vous écoutons.
À toutes les voisines et tous les voisins. Alors moi j'ai un témoignage et par la suite une préoccupation. C'est-à-dire que j'ai des jumeaux, une fille et un garçon, qui a grâce aux tablettes, qui ne sont pas forcément une mauvaise parle.
Quel âge les jumeaux
depuis...
2 ans, c'est ça?
Ils ont 2 ans, deux ans et trois mois. Il y a 6 mois, il parlait déjà assez bien français à cause donc des tablettes. Mais aujourd'hui, on a un tout petit peu peur parce que ça tourne à l'addiction. Alors, j'aimerais avoir des conseils.
Quand vous dites l'addiction, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous observez?
Ça veut dire qu'au réveil, il demande systématiquement les tablettes. donc nos smartphones, mais on part au travail. Et quand on revient, c'est la première des choses qu'ils demandent. Ils veulent regarder les vidéos. Et puis, ils ne sont même plus assez stables. Comme ils savent très bien les manipuler. Ils vont eux-mêmes sur YouTube, ils regardent les dessins qui leur plaisent.
Ah oui,
vraiment,
ah
ils
oui à deux ans.
Ouais.
Et oui. Donc, en fait, ce n'est pas le retour du papa qu'ils attendent, c'est le retour du smartphone.
Voilà, mais depuis deux jours, j'ai coupé le...
Bon, et que se passe-t-il? C'est le concert de hurlements?
Pardon?
C'est le concert de hurlements, du coup?
Comment ils réagissent, les enfants?
Ah non, mais quand on ne leur présente pas, ils demandent à chaque fois, ils demandent, et puis on refuse. Et à un moment, vous savez, vous ne pouvez pas refuser.
Bon, alors, Elsa Jopija, orthophoniste, peut peut-être vous donner des conseils.
Alors, écoutez, je pense que vous avez raison de vous préoccuper de cette question parce que c'est très tôt, 2 ans. Et l'enfant qui regarde les tablettes comme ça et qui, comme vous dites, il parle, en fait, plutôt il répète. Il répète des choses auxquelles il ne donne pas forcément de sens. Comme l'a expliqué Sabine Duflo tout à l'heure, ça capte complètement l'attention de l'enfant et ce sont des neurostimulations vraiment très puissantes et répétées qui prennent toute la place. Et c'est pourquoi, effectivement, il y a un phénomène d'addiction qu'il ne faut pas négliger et vous avez tout à fait raison de réguler. Si on reprend les recommandations de l'Académie canadienne de pédiatrie dont a parlé Sabine ce matin, les Canadiens se sont vraiment prononcés tout à fait contre les tablettes et tous les écrans avant l'âge de 2 ans. Et entre 2 et 4 ans, vraiment le minimum possible, une heure, tous écrans confondus.
Par jour.
Ce qui
est déjà pas mal, voilà. Si on a 3 ans.
Tout à fait. Et c'est une moyenne. Hein. Donc, si on regarde 1h30 le week-end, on regarde un peu moins. Ce qu'on explique souvent aux parents sur le terrain, c'est qu'il faudra avoir un petit peu la même attitude qu'avec le sucre, par exemple, dans l'alimentation. C'est que vous ne laisseriez pas le placard ouvert avec toutes les sucreries à disposition. De la même façon, vous ne pouvez pas laisser comme ça à disposition un temps d'écran illimité. Ça n'est pas possible parce que c'est, on pourrait dire quelque part, la nourriture du cerveau. C'est quelque chose qui ne... La façon dont se développe le cerveau ne se voit pas tout de suite. Elle se voit plus tard justement avec des enfants arrivent chez nous, des retards de langage, des difficultés de compréhension, un vocabulaire pauvre, etc. Hein, mais quand on dit aux parents qu'il y a des jeux pour apprendre à parler, ce serait plutôt pour répéter des choses sans aucun sens. Or, nous voyons arriver beaucoup d'enfants dans nos cabinets qui ne donnent pas de sens à tout ce qu'ils entendent toute la journée à l'école.
C'est-à-dire, donnez-moi un exemple.
C'est-à-dire
quand vous êtes avec un enfant, vous lui posez une question.
Voilà, alors soit je lui pose une question et il ne comprend pas du tout ce que je veux dire, ou bien par exemple, il n'arrive pas à avoir des notions comme compter, par exemple, la notion de nombre. La notion de nombre est extrêmement perturbée par l'usage précoce des écrans. Parce que comme l'enfant n'a pas eu assez d'objets entre ses mains, le moment où les enfants ont des petits personnages, les déplacent, les regroupent, les transportent, etc., pendant tout ce temps-là, avec sa main, avec son corps, le jeune enfant, petit à petit, sans qu'on le voit, il va petit à petit entrer dans la notion de nombre. Nous voyons par exemple aujourd'hui des enfants qui à 10, 11, 12 ans sont absolument incapables de résoudre des problèmes simples parce qu'ils sont, comme disait Sabine, ils sont beaucoup déclenchés, hein, c'est-à-dire ils vont répondre des choses comme ça, mais ils ne vont pas pouvoir aller chercher dans leur tête quelle opération il faut pour résoudre un problème simple hein, de type école primaire.
Donc pour Willy, pas d'écran pour ses jumeaux de 2 ans.
Voilà, je pense.
Et
que
dans quelques mois, des écrans à
éventuellement
petite dose.
Des écrans comme une petite friandise. C'est-à-dire finalement se dire que l'écran, ça ne va pas quand il prend toute la place parce que c'est toute la question du temps volé à l'enfant. Hein, tout le temps que ça vole dans une vie d'enfant, il faut se poser cette question de quoi on a réellement besoin quand on est enfant.
C'est ce que nous disait Christophe. Mes amis qui ont appris la musique pendant que moi je regardais les dessins animés.
Voilà, hein, ou le petit qui transporte ses jouets, fait tout un tas de choses auxquelles on prête à peine.
Encore
attention.
Une fois, il ne s'agit pas d'être technophobe. Hein.
Pas du tout.
Il s'agit simplement de revoir froidement la question des quantités d'heures qui s'additionnent pour un très jeune enfant.
Et de préserver les tout-petits parce que c'est l'âge du plein boom des connexions neuronales qui se fait entre 0 et 3 ans et qui peut être perturbée par trop de stimulation par ces écrans.
Merci beaucoup Willy de nous avoir appelé. Nous donnons la parole à Jean-François qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Bonjour Jean-François.
Bonjour Manuel.
Vous avez
Bonjour.
Un enfant de 2 ans également.
Un petit peu moins, il a 1 an et demi.
Ouais. Alors à la différence de Willy à Libreville qui nous disait que ses enfants avaient parlé bien français déjà à l'âge qu'ils avaient grâce aux tablettes, même s'ils s'interrogeaient tout de même hein, sur l'addiction que provoquaient les tablettes à entendre les pleurs quand ils n'avaient plus de tablettes. Vous, dans quelle situation êtes-vous à Dakar avec votre enfant?
Alors nous, on a une politique assez stricte au niveau des tablettes et des télés. On n'en a en fait aucune à disposition de l'enfant. Toute son éducation et son apprentissage de la vie se passe au contact des choses qui l'entourent, un petit peu à l'ancienne on va dire. Et c'est aussi le cas de la crèche où on l'envoie 2 fois par semaine. Et aussi un peu des enfants qui l'entourent en fait. Ici c'est vraiment, on est dans un mode un petit peu de notre temps on va dire nous adultes où c'est vraiment la découverte de la nature et des objets qui l'entourent. Et on essaie d'encourager cette curiosité au maximum. Sans le planter devant un écran où réellement on voit des fois il tombe un petit peu par hasard devant une télé ou quelque chose, ça l'immobilise tout directement et il est comme un petit peu en phase quoi, donc devant ça. Et on essaie d'éviter ça.
Oui, pour le tout petit, l'écran a quelque chose d'hypnotique, c'est vrai.
Ah, complètement, oui.
Vous envisagez néanmoins d'introduire des écrans dans la vie de votre enfant, Jean-François?
Je crois que c'est un petit peu le dilemme, hein, parce qu'on voit que la société est un petit peu en train de se technocratiser, on va dire, avec beaucoup où on voit que le futur sera un petit peu aux gens qui seront contrôlés les machines. Et pour contrôler une machine, il faut savoir la construire ou la programmer.
Absolument.
Donc, au bout d'un moment, il faut savoir se mettre un petit peu à cette technologie-là. Mais nous, on pense que jusqu'à un âge, on va dire, sur les premières années, c'est vraiment encourager cette curiosité du monde qui va être cette curiosité-là qui va lui permettre ensuite d'apprendre. Pouvoir apprendre, il faut être curieux.
Ouais. Et d'avoir déjà bien construit sa pensée, de comprendre le monde, de comprendre les choses, de comprendre le nombre, de bien maîtriser le langage oral, le langage écrit. Et après, eh bien, l'enfant cheminera et utilisera cet outil comme un autre.
Ouais. Merci beaucoup de nous avoir appelé Jean-François à Dakar pour ce témoignage. Elsa Job-Pijard, par exemple, on parle beaucoup depuis quelques mois, quelques années, de la nécessité d'enseigner le code informatique à l'école primaire. Il va être introduit d'ailleurs en France, il est introduit depuis longtemps aux États-Unis parce qu'on sait que les débouchés économiques du numérique sont énormes. En tant que tel, vous n'êtes pas contre hein.
Bien sûr que non. De toute façon, moi, en tant qu'orthophoniste, je dépends du ministère de la Santé, pas de l'Éducation nationale. Donc, il est difficile de se prononcer là-dessus. Mais bien sûr qu'on peut proposer, dans la mesure où c'est un exercice, j'allais dire, mental, où il faut réfléchir maintenant ce que nous voyons au quotidien, puisque nous sommes dans ce collectif des gens du terrain, nous voyons des enfants qui sont enfermés dans ces objets, qui ne font que ça ou qui sont majoritairement stimulés par ces objets. Or, il y a un discours très fort du marketing du côté des vendeurs de ces objets, puisqu'on nous dit 2 choses. On nous dit d'abord qu'il faut savoir s'en servir tôt, alors que finalement, ce sont des objets qui sont très intuitifs et faits pour être très simples. C'est d'ailleurs pour ça que les enfants de 18 mois savent s'en servir. Et de plus, un enfant qui a aujourd'hui 6-7 ans, que sera... À quoi ressembleront les objets numériques et informatiques quand il sera en âge d'être sur le monde du travail? Quand on voit l'évolution et quand on voit que les objets sont complètement dépassés en 5 ans, je pense que c'est un argument surtout pour vendre. Hein, c'est pas tellement un argument qui correspond au développement de l'enfant qui, lui, a besoin d'un temps pour avoir une vie d'enfant. Et très bien, si on lui apprend du code informatique, il me semble qu'en Australie, on apprend le code informatique aux enfants. En tout cas, c'est peut-être une expérience, j'avais lu quelque chose là-dessus, où on l'apprend, mais avec papier-crayon uniquement.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu un concours pour petits génies de très jeunes, des adolescents, pour craquer des codes, organisé d'ailleurs par les services secrets français. Et c'était juste avec papier-crayon.
Voilà.
Donc, pour repérer dans l'esprit. Des sommes de chiffres et retrouver, arriver à être hacker finalement. Mmh. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons Tiburce qui est à Libreville, au Gabon également. Bonjour Tiburce.
Bonjour Emmanuel, bonjour à votre invité, bonjour à tous les auditeurs d'Afrique de RFI.
Alors vos enfants sont assez âgés, hein, ils ont 15 ans, 8 ans, 6 ans, ce ne sont pas de tout petits. Quel constat faites-vous et puis surtout quel message vous voulez faire passer? Je crois que vous êtes conseiller pédagogique dans des écoles primaires.
Exactement. En principe, le message que je veux faire passer, c'est qu'on ne peut pas faire maintenant sans les technologies. Mais les technologies ici doivent intervenir comme un complément, comme un partenaire de l'enfant dans son apprentissage. Ça ne doit pas être l'élément premier. Et moi, comment je procède? Moi, je suis très regardant. Je suis accompagnateur et je sensibilise et ça reste là très tôt.
Mais très concrètement, vous dites quoi à vos enfants? Vous dites quoi aux parents qui viennent vous parler de ce problème?
Je demande de limiter le temps que l'enfant fait devant l'outil informatique. Je demande de limiter le temps et je donne les risques que l'enfant a de trop mettre du temps devant. Mais je donne aussi, bien sûr, les avantages et bien sûr, je donne des conseils où aller, où ne pas aller, et surveiller, être regardant sur ce que fait l'enfant lorsqu'il est face à cela. Parce qu'il s'agit d'aller vers pour pouvoir apprendre. Si ce n'est pas pour apprendre, cela ne sert à rien du tout.
Alors, Tiburce, en tout cas, vous posez une bonne question sur il faut accompagner les parents. Il ne faut évidemment pas les culpabiliser. La plupart des parents pensent bien faire, sont pleins de bonne volonté pour élever leurs enfants. Merci de nous avoir appelés. Tiburce, j'aimerais que vous nous disiez, Elsa, ce qu'il ne faut pas faire, mais aussi ce qu'il faut faire, parce que c'est facile, entre guillemets, d'éteindre un écran de télévision, de ranger un smartphone ou une tablette dans un placard. Mais on fait quoi ensuite avec ses enfants?
Ben voilà, c'est ça. Alors, on cherche ensemble des choses qu'on pourrait faire
alors déjà
quand on a du temps.
Pas de télévision le matin au petit déjeuner,
voilà,
avant
ça,
l'école.
Ce sont les quatre pas, les principales recommandations qui sont inspirées des recommandations de l'Académie américaine de pédiatrie. Donc, c'est d'ailleurs téléchargeable sur le site de Ville-Évrard.
On va mettre ça sur notre page.
Très bien. Donc, les quatre pas, c'est pas de télévision ou pas d'écran, en tout cas, le matin avant d'aller à l'école, puisque comme l'a dit Sabine, ça dérégule le système attentionnel et seulement 15 minutes d'écran le matin avant d'aller à l'école perturbe les capacités attentionnelles de l'enfant, donc ses capacités d'apprentissage. Pas d'écran pendant le repas, hein, puisqu'on l'a dit en plus, c'est un moment d'échange privilégié. Pas d'écran seul dans la chambre de l'enfant et pas d'écran juste avant de dormir, puisque ça a un effet sur le sommeil.
Ça, c'est jusqu'à quel âge, ces quatre pas?
Oh bah ça, c'est la gestion familiale des écrans. Hein. Ça peut être tard, puisque même on recommande aussi des temps de déconnexion pour les adolescents. Hein, garder des moments comme un couvre-feu numérique. Oui. Et puis ensuite, chaque parent informé dans sa propre famille met les règles comme il arrivera à les mettre, hein, si je puis dire. Chacun fait dans sa famille comme il pourra.
Que faire avec ses enfants? C'est une question que vous abordez avec les parents qui viennent avec leurs enfants, qui posent des problèmes d'apprentissage.
On est dans une société qui a très peur du vide. On est dans une société qui veut toujours occuper l'enfant. Or, ce que nous voyons, c'est justement des enfants qui manquent beaucoup de moments, j'allais dire, d'ennui, de moments à rêvasser, de moments à aller chercher.
Avec quelques jouets quand même, avec quelques petites voitures.
Bien sûr, les enfants, majoritairement, ceux qu'on rencontre, ont beaucoup d'objets à leur disposition. Hein, et puis la maison entière, parce que par exemple, pour les tout-petits, tout est jouet. Hein, tout peut servir de jouet. Vous voyez bien un petit avec des pinces à linge, un petit qui farfouille partout. Tout est jeu. Il faut en tout cas regarder pour les tout petits qui nous préoccupent beaucoup, parce que c'est surtout pour eux qu'il existe très peu de choses qui sont dites en France, surtout. Pour les grands, on a déjà la notion qu'il faut accompagner jusqu'à Internet, etc. Pour les tout petits, en tout cas, il faut regarder ce qu'aime faire l'enfant. permettre le jeu, pas forcément tout arrêter tout le temps parce qu'on est parents, on est débordé
et
qu'on a des choses à faire.
On peut fabriquer des jeux, des jouets assez facilement, hein, fabriquer une ferme avec des animaux par exemple,
voilà,
pour apprendre à compter.
Et puis l'enfant va lui-même détourner des choses, inventer lui-même. Alors quand vous dites ce qu'il faut faire, c'est souvent regarder un petit peu l'enfant, voir ce qui lui plaît, passer un temps. Déjà, on est dans une société où les gens sont très pris, où il y a beaucoup de stimulation de toutes sortes. Si on arrive déjà chaque jour à passer un quart d'heure, 20 minutes, seul avec l'enfant, à jouer, à discuter, à regarder ce qui lui plaît, à lire un livre, puisque les enfants aiment toujours beaucoup qu'on leur raconte des histoires, même une fois qu'ils savent lire eux-mêmes, hein, on trouve des choses. Nous voyons sur le terrain des parents cette notion de culpabilité. C'est vrai qu'elle peut être là. Il faut évidemment accompagner les parents parce que les parents aiment leurs enfants et qu'ils n'ont pas voulu mal faire et qu'on leur raconte beaucoup de choses dans la publicité et le marketing pour qu'ils aient envie d'acheter tout ça. Hein, mais donc les témoignages que nous avons, une fois que les gens ont baissé les temps d'écran, c'est aussi le plaisir retrouvé dans l'échange, le plaisir retrouvé dans des petites choses quotidiennes et le plaisir.
Ça concerne tous les milieux sociaux, vous me le disiez avant
Absolument.
Qu'on commence l'émission,
oui.
Parce que c'est vrai aussi que des familles qui ont de grosses difficultés de vie au quotidien vont peut-être plus laisser les enfants devant la télé sans s'en occuper, mais ça concerne aussi des milieux très privilégiés qui se disent qu'il faut surstimuler les enfants avec des tablettes éducatives.
Absolument, hein. Toujours en voulant bien faire, hein, nous rencontrons aussi dans nos consultations des enfants de 2-3 ans qui ont été énormément stimulés.
Mon enfant est bilingue dès 2 ans,
voilà,
grâce à la tablette, il a appris l'anglais.
Voilà. Et qui ne correspond pas du tout aux besoins de l'enfant à ce moment-là. Parce que si l'enfant n'a pas besoin de l'anglais à ce moment-là, c'est trop tôt. Plus tard qu'il y ait des choses au collège, au lycée, qui puissent aider à aller vers des langues, à développer son vocabulaire, probablement. Mmh. Hein, mais attention au moment où on introduit et aux promesses qu'il peut y avoir.
On a beaucoup parlé de la petite enfance. Je voudrais vous lire ce dernier message. Dric, je ne sais pas d'où il écrit, hein. Il a posté ça sur les réseaux sociaux. Il nous dit « J'ai 17 ans, je passe 50 à 80% de mon temps libre accroché à mon smartphone sur les réseaux sociaux. J'ai même raté mon BEPC l'année dernière. Je viens de redoubler. Je suis vraiment perdue. Comment faire pour arrêter d'être sans arrêt sur mon téléphone et me remettre dans le droit chemin ?» Il a parfaitement compris ce qui lui arrive, Edric. Hein.
Tout
il est lucide.
Tout à fait. Bah, je crois que là, il lui faut de l'aide. Hein, peut-être bien solliciter l'aide de ses parents pour dire stop. C'est ça qui est terrible avec ces objets. C'est qu'il faut un autre, il faut un parent, il faut quelqu'un à côté pour dire stop aux enfants. Hein, le stop, la régulation ne vient pas toute seule. Hein, même soi-même en tant qu'adulte, ça guette tout le monde. On a pu faire l'expérience qu'on pouvait passer beaucoup de temps. Et alors,
aujourd'hui,
pour ce jeune homme, il faudrait qu'il puisse se faire accompagner parce que là, si lui-même pense que c'est à l'origine d'énormes difficultés scolaires, là, je pense qu'effectivement, il faut le traiter comme une addiction.
Peut-être se mettre à faire du sport aussi, tout simplement.
Par
parce que par définition, quand on fait du sport, c'est quand même difficile d'être en même temps devant son écran. Aujourd'hui, ce sont finalement pas tellement les parents qui s'alertent, qui s'inquiètent, mais surtout les enseignants, non, à l'heure actuelle.
Oui, comme le disait Sabine en première partie d'émission, c'est majoritairement les écoles qui nous envoient des enfants qui préoccupent. Hein, alors là, on a tous les cas de figure. Hein, on a les simples retards de parole-langage jusqu'aux troubles de la socialisation assez graves, des enfants qui ont des comportements violents hein, et sont décrites dans des cours d'école primaire des situations de violence tout à fait inédites dans les dernières années. Des situations de violence très grave, avec quand les psychologues reçoivent ces enfants, des enfants qui ont été soumis à des images violentes dans des jeux vidéo interdits aux moins de 18 ans, par exemple, ou des programmes qui peuvent passer à la télévision, hein, et des enfants qui ont une forme de perte de l'empathie, ce qui est quand même très préoccupant dans
qui
une société.
Qui ne parviennent pas à se mettre à la place de l'autre.
Voilà, qui n'arrivent pas.
Votre association Joue, Pense, Parle, en tant qu'orthophoniste, puisque vous êtes cofondatrice de cette association, dans les mois qui viennent, comment vous allez vous mobiliser?
Alors, nous allons proposer des actions nationales. Nous nous rapprochons de nos collègues puisque nous avons déjà, il y a déjà beaucoup d'orthophonistes qui font de la prévention en France. Nous allons essayer de proposer des actions coordonnées, nationales, où nous allons aller à la rencontre des gens et justement être sur cette question que vous souleviez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a éteint les écrans? Qu'est-ce qu'on peut bien faire?
Ben justement, j'ai une réponse apportée par un auditeur qui nous livre la façon tout simplement comment il éduque ses enfants. Hervé, il est à Cotonou, au Bénin, et nous dit ben, un enfant, ça s'éduque entre quatre murs, pas dans la rue, encore moins devant les écrans. Il ne faut pas se laisser distraire par cette propagande extravagante qui encourage à la consommation. Moi, avant l'âge de 16-18 ans, mes enfants n'auront pas le droit à un smartphone. Oui, là, c'est peut-être quand même un peu voilà, exagéré. Là, parce qu'il faut quand même
c'est un choix éducatif oui. de ce papa.
Bon. Mais... à la maison, à des heures bien indiquées, leurs amis pourront les joindre sur... Il parle au futur, hein. Attendons de voir ce qu'il fait. Pourront les joindre sur mon numéro ou celui de leur mère. Pendant les cours, s'il y a un problème, ils savent qu'ils peuvent nous joindre à travers le surveillant ou le secrétaire de l'école. Pour la télé, je sélectionne les chaînes et les programmes ainsi que les heures de visionnage. Et bien sûr, pas d'écran dans leur chambre. Mmh. Ça semble placé au coin du bon sens. Mais pour le reste, évidemment, il faut tout de même pas non plus couper ses enfants du monde extérieur, surtout quand on est adolescent.
Oui, bah, ça c'est une autre question. Hein, mais ce papa a fait un choix éducatif très strict. Bon, voilà, c'est comme ça chez lui. Mais il est vrai qu'il faut arriver à une régulation.
Elsa, vous avez des parents, vous, en tant qu'orthophoniste, vous avez des adolescents chez vous?
Oui, quelques-uns.
Il y a des jeux vidéo chez vous?
Ah, en tant que parent, oui. chez moi oui. Non, chez moi, il n'y a pas de jeux vidéo.
Voilà, c'est une orthophoniste qui le dit, c'est juste intéressant. Merci à vous, Elsa Job-Pijard, orthophoniste, cofondatrice de l'association Joue, Pense, Parle. Merci à Sabine Duflo aussi, psychologue au Centre médico-psychologique de Noisy-le-Grand. Et merci à toute l'équipe, Thomas Delpech, Camille Néron, Hugo Violas. Demain, 7 milliards de voisins, ne manquez pas notre reportage aux États-Unis, la résistance anti-Trump dans les universités américaines. Reportage dans 5 campus, 3 États américains, et c'est tout à fait passionnant. À demain.